Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La diversité de genre dans les projets logiciels libres. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec le retour d'expérience de trois informaticiennes libristes. Avec également au programme une interview de l'avocat d'Anticor, l'association Anticorruption, sur un dossier de soupçon de favoritisme dans l'attribution d'un marché de l'éducation nationale. Et en fin d'émission, la chronique de Luc, intitulée « Errare humanum est, persevere diabolicum ». Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 7 juin 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Plutarque aurait dit que la barbe ne fait pas le philosophe, il a la barbe bien fournie et il a le talent de réalisateur, donc je ne sais pas si la barbe fait le réalisateur, mais en tout cas, Étienne Gounut est à la réalisation aujourd'hui de l'émission. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Alors nous allons commencer par une interview de Jean-Baptiste Souffron, l'avocat d'Anticor, l'association anticorruption, sur le dossier de soupçon de favoritisme dans l'attribution d'un marché de l'éducation nationale. Et pour cette interview, je passe le micro justement à mon collègue Étienne Gounut pour la conduite de cet échange.
Merci Fred. Alors là, malheureusement, nous avons fait un test avec Jean-Baptiste Souffron qui semble pas avoir pu rappeler tout de suite. Donc j'attends son appel d'un matin à l'autre, mais je peux déjà peut-être présenter un petit peu donc notre sujet. Donc vous vous rappelez, alors si vous suivez les actions de l'April, vous avez sans doute suivi cette action-là justement. Donc par un communiqué du 12 mai 2022, l'association Anticor, une association bien connue pour la lutte contre la corruption. Donc l'association Anticor a expliqué qu'elle avait déposé une plainte auprès du parquet national financier portant sur des soupçons de favoritisme dans l'attribution d'un marché public de l'éducation nationale à l'entreprise américaine Microsoft. Alors bien sûr, une action que l'April a fortement saluée et a pris comme une excellente nouvelle parce que l'April, ça fait bien sûr des années qu'on constate malheureusement l'état de dépendance de l'État en général et puis notamment du ministère de l'Éducation nationale, une dépendance au logiciel privateur de la multinationale américaine Microsoft. Et donc, Anticor a déposé cette plainte et une plainte qui permettrait, si elle était effectivement, si elle aboutissait, contribuerait à faire la lumière un petit peu et à assainir cette situation, ce qu'on a besoin étant donné les rapports de force favorables dans lesquels on se situe et qui sont favorables à Microsoft, parce que par ces solutions logicielles privatrices, elle enchaîne, on va dire, elle lie pieds et poings les administrations à leur logiciel, elle crée des dépendances d'utilisation, des dépendances techniques. Et donc on a besoin de décisions fortes et d'actions fortes comme cette plainte pour renverser tout cela. Puisqu'on parle d'éducation nationale, on se rappellera en 2015 qu'il y avait déjà eu une affaire qui avait fait grand bruit. Effectivement, donc en 2015, de 2015 ou de ce qui a débordé sur 2016 d'ailleurs, un partenariat avait été signé en grande pompe entre l'éducation nationale et Microsoft. Un partenariat qui était d'une valeur affichée de 13 millions d'euros. Alors on a appris plus tard, mais parce que ça encore, c'était les grands défauts de transparence sur ces contrats-là, on ne savait pas bien de quoi il s'agissait. Et par différentes actions, on a appris qu'il s'agissait d'un contrat de mécénat. Donc Microsoft offrait gracieusement notamment des formations et des tablettes à l'éducation nationale pour que les jeunes élèves, très tôt, s'habituent aux outils. Car ce n'est bien sûr pas neutre d'apprendre l'informatique à travers des solutions privatrices plutôt qu'à travers des solutions libres qui sont par essence émancipatrices, alors que des solutions privatrices aliènent et ne permettent pas d'avoir un rapport critique à l'informatique que l'on apprend. Fred.
Non mais je dois essayer de combler en attendant que l'avocat d'Anticor rappelle. J'espère qu'il sera à l'heure pour l'audience en tout cas. Je crois qu'Anticor, c'est pas la première fois qu'elle se saisit de ce dossier, d'un dossier autour du logiciel libre. Je crois que autour de l'informatique et des libertés, si je me souviens bien, mais peut-être que je commets une erreur, ils ont aussi saisi concernant le Health Data Hub. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Oui, alors je serais pas effectivement mesure. Je crois qu'ils étaient. Je sais pas si c'est Anticor. En tout cas, il y avait une action parce que Health Data Hub était un autre, un énième exemple de ces contrats ou de ces situations, on va dire, de dépendance de l'administration française et de l'État français à Microsoft. Donc LData Hub, qui était un grand projet, enfin, qui est un grand projet, on va dire, d'une plateforme pour d'accès aux données de santé, pour permettre la recherche sur ces données. Et dans un premier temps, c'est Microsoft qui avait été retenu comme solution pour héberger ces données avec beaucoup de problématiques. Et donc, entre-temps, voilà, maintenant, ce n'est plus Microsoft. En tout cas, il y a eu dû avoir marche arrière, notamment suite à certaines décisions de justice. Je crois que tu as retrouvé la référence.
Oui, effectivement. Donc, Anticor a déjà saisi le parquet national financier donc, sur ce dossier de Wells Data Hub donc, en mars 2021. Donc, c'est sur le site d'Anticor, hein, anticor.org. Donc, Anticor rappelait que le marché public a été attribué sans mise en concurrence en faisant prétendument appel à l'UGAB, donc la centrale d'achat publique, qui le conteste dans l'urgence et au motif que seul Microsoft aura les capacités technologiques à fournir une telle infrastructure. La Caisse d'assurance nationale maladie a exprimé à l'époque d'ailleurs son désaccord sur cette solution et ce choix a également été critiqué par le Sénat. Anticor rappelle aussi qu'une centaine de chercheurs et chercheuses avaient alerté l'opinion sur les enjeux de ce choix. Donc il s'agit d'un montant, d'un marché public particulièrement important, tant par son objet que par son montant. Et en effet, il porte sur des données personnelles de santé qui sont des données sensibles, comme l'a rappelé la CNIL, ce qui implique la sécurisation de ces données et donc une technologie coûteuse. Une telle opération exigeait un haut niveau de transparence et une procédure de mise en concurrence irréprochable, relayée par le biais de canaux d'information réglementaires. Et c'est pourquoi l'association Anticor a décidé de saisir le parquet national financier sur le volet non ministériel du dossier. Parallèlement, la Cour de justice de la République est saisie du volet ministériel, ce que je ne savais pas, je ne me souvenais pas en tout cas. Donc en tout cas, c'est très rassurant et c'est très intéressant de voir qu'une association nationale anticorruption comme Anticor se saisit de ces dossiers-là. Et alors par contre, comme on n'a pas donc l'avocat d'Anticor sur ces dossiers-là, donc Jean-Baptiste Souffron, est-ce que les informations, les détails de la plainte au PNF, au parquet national financier, ont été publiés ou pas?
Il ne me semble pas. Alors c'est vrai que nous avons un peu pris contact avec Anticor dans cette perspective, mais bon après, on peut comprendre qu'en termes de stratégie de défense, il vaille mieux garder un petit peu certaines de ces données, si ce n'est secrètes, du moins confidentielles. Donc on verra effectivement si ça se prospère. On peut saluer, c'est vrai qu'on s'intéresse un peu à ces questions politiques-là, le travail vraiment sans relâche d'Anticor sur ces questions, qui est vraiment, je m'exprime à titre personnel, mais je trouve que c'est vraiment une association qui fait un travail remarquable. Je pense que d'ailleurs, il est possible d'aller les aider, ne serait-ce que financièrement. J'invite les personnes qui s'intéressent à ces sujets à ne pas hésiter à le faire.
Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose?
Alors oui, mais j'ai oublié.
Je vois bien à travers la glace que tu as oublié quelque chose, mais est-ce que si tu t'en souviens, puis sinon on passera au sujet suivant, parce que visiblement Jean-Baptiste Souffron
a oublié. Le délai sera un peu court. Si, c'est simplement peut-être pour revenir à reposer un petit peu les choses en termes de politique publique et de politique générale. C'est vrai qu'on se retrouve aussi, on choisit des solutions qui nous enferment, et du coup on est enfermé dans une situation avec Microsoft qui nous oblige à renouveler parce que on a des situations de dépendance technique, on a des situations de dépendance, on va dire, dans les usages courants. Donc ça aussi, il faut des décisions fortes pour pouvoir un peu renverser tout cela. Et donc, parallèlement, on pourra pas avoir ce qu'on sait qu'il y a des politiques publiques maintenant qui se veulent plus favorables aux logiciels libres. Pour qu'elles puissent prospérer, pour qu'elles puissent produire leurs effets, il faut aussi matériellement s'intéresser à la situation actuelle et donc faire la lumière sur ce qui se passe à l'éducation nationale, ce qui se passe dans les choix tels qu'ils sont formulés sur les data Hub, vis-à-vis du ministère de la Défense. On sait qu'il y a une grande dépendance, une très grande dépendance même aux outils de Microsoft. Et donc voilà, il faut que cet effort soit holistique, on va dire, de la part de la puissance publique.
Bah écoute, très bien, j'ai juste rappelé, parce que je le rappellerai en fin d'émission, qu'il est aussi possible en ce moment de sensibiliser les candidats et les candidates aux élections législatives, aux libertés informatiques à travers le pacte du logiciel libre que nous proposons. Donc sur candidat.fr, c'est à la fois un pacte qui permet de signer des engagements en faveur du logiciel libre, et puis c'est aussi une manière de mettre en relation des gens dans une circonscription, des personnes dans une circonscription, et les candidats et les candidates aux élections législatives des 12 et 19 juin. Bah écoute Étienne, merci pour cet échange, hein, la plainte d'Anticor, donc l'association anticorruption, donc sur un dossier de soupçon de favoritisme dans l'attribution d'un marché de l'éducation nationale. Alors les informations, en tout cas la communication presse d'Anticor est sur anticor.org, et je pense que assez rapidement ou à un moment on aura peut-être un peu plus de détails, on aura l'occasion de réinviter Jean-Baptiste Souffron, ou peut-être d'enregistrer l'échange pour être sûr de l'avoir. Mais c'est les joies du direct, c'est les joies de la radio. Que tu souhaites ajouter quelque chose avant qu'on fasse la pause musicale?
Très bien, et j'attends impatiemment le sujet suivant.
Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de la diversité de genre dans les projets logiciels libres. En attendant, nous allons écouter Let As Usual par The Freak Fandango Orchestra. On se retrouve dans 3 minutes 36. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles, et préparez-vous à danser.
Cause Commune 93.1.
Il est trop tard, il y a un monstre dans l'armoire et un météorite est tombé sur mon lit. Il y a plus de rues, je suis tombé dans un trou de cafardier en mer, regard méfiant.
Let As Usual par The Freak Fandango Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la diversité de genre dans les projets logiciels libres avec le retour d'expérience de trois informaticiennes libristes. Avec moi au studio Zineb Bendiba, ingénieur logiciel libre chez Red Hat. Bonjour Zineb.
Bonjour.
Et sur Mumble à distance, normalement nous avons avec nous Agnès Crépet, responsable de l'équipe informatique de la longévité logicielle de Fairphone. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Et Anne-Lise Marteneau, qui est informaticienne indépendante et qui participe également au projet SPIP. Bonjour Anne-Lise.
Bonjour.
Super, toutes les trois vous êtes là. Donc n'hésitez pas, auditeurs et auditrices, à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton chat. Je surveille le salon, donc je peux relayer vos remarques ou vos questions. Alors, une étude de Stefano Zacchiroli, enseignant-chercheur à Télécom Paris, montre que les femmes seraient de plus en plus actives dans la production de logiciels libres pour atteindre environ, attention, on s'attache, 10% de contributrices actives sur la planète. Donc oui, 10%, bah, parce qu'il reste beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Alors, on parlera de cette étude avec Stefano la semaine prochaine, mardi 14 juin. On continuera cette discussion et également avec Isabelle Collet, qui est informaticienne et enseignante chercheuse à l'Université de Genève. Mais aujourd'hui, on va donner la parole à trois femmes pour parler de leur expérience, justement, dans les projets libres. Alors, projets libres en général, ou en tout cas dans leur expérience forcément libre d'ailleurs, dans leur expérience informatique. Donc là, vraiment, aujourd'hui, cette émission, c'est plus retour d'expérience. La semaine prochaine, c'est plus une approche un petit peu, on va dire, académique et autre. Alors, première question pour chacune, à la fois, bon, de part de présentation personnelle sur ce que vous faites, mais également, peut-être en deux minutes maximum, un petit résumé de votre parcours pour que les gens vous connaissent un petit peu mieux avant qu'on aborde les différents sujets. Donc, on va commencer par Zineb, qui est avec moi au studio.
Moi, je suis du coup ingénieur logiciel chez Red Hat. Je travaille depuis 14 ans. Mais je précise que depuis 2 ans, je suis chez Red Hat et je travaille dans le logiciel libre que depuis 2 ans en tant que contributrice. Je contribue sur un projet qui s'appelle Apache Camel, sur lequel je suis contributrice reconnue et membre du comité de management du projet. Et du coup, pour moi, mon parcours, j'ai fait mes études au Maroc, ce qui est différent d'ici en France. Et j'ai commencé à travailler au Maroc. Je suis arrivée en France il y a 11 ans. C'est un peu différent, en fait, le Maroc de la France, parce que, alors, au Maroc, on a d'autres problématiques. On n'est pas tous égaux par rapport à l'accès à l'éducation, suivant où est-ce qu'on habite et les milieux où on est. Mais pour ce qui est de mon cas, j'ai grandi dans les années 80-90 dans des grandes villes, dans la classe moyenne, et chez nous, quand on est dans ces milieux-là, qu'on soit des filles ou des garçons, on est poussé beaucoup vers les maths. On aime bien les maths et on est beaucoup poussé pour aller vers des métiers de l'ingénieur, des filières scientifiques, des métiers de l'ingénieur, des métiers de la médecine. Peut-être par rapport au fait qu'on est dans un pays pauvre et que ces domaines-là pourraient peut-être déboucher sur des travails où on aura un niveau de vie agréable, mais en tous les cas, on est beaucoup poussé vers ça et on n'a pas au niveau des études cette différence qui existe en France et dans d'autres pays. Donc juste pour souligner que chez nous, en fait, dans les métiers de l'ingénieur, on est plutôt dans les études entre 30-40% à peu près de niveau de femmes. Donc moi, j'ai étudié là-bas dans ce contexte-là. Ce n'était pas du tout bizarre d'être une femme qui étudie les maths ou l'informatique. Et après, j'ai découvert qu'il y a quelques années, en faisant ma première conférence technique en France, qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Ce que je ne m'imaginais pas en venant dans un pays un peu plus développé, je pensais qu'il y avait à avoir plus de femmes. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ça et j'ai rejoint l'association Duchesse. Mais voilà, je ne pourrais pas personnellement donner mon avis sur l'éducation, mais j'étais dans un pays où c'était différent, il y avait plus de femmes au niveau éducation, voilà.
Bah écoute, c'est très intéressant. J'ai juste précisé que Red Hat, c'est une entreprise américaine qui édite une distribution de Linux, notamment orientée pour les entreprises. Voilà. Et je précise que même si tu es de Red Hat, tu n'interviens pas, enfin, au nom de Red Hat aujourd'hui en tout cas, et qu'on va parler de ton retour d'expérience personnelle. Donc là, c'est très intéressant. On va poursuivre donc la présentation personnelle, un petit peu le parcours, donc avec Anne-Lise Marteneau. Donc Anne-Lise, à toi. Alors, sinon, on va passer à Agnès. Donc Agnès Crépet.
Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez.
Oui.
C'est bon ?
Vas-y.
Donc oui, je m'appelle Agnès Crépet, j'ai 44 ans, donc ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé de bosser. J'ai un parcours assez classique, je suis sortie d'une école d'ingénieur avec une formation un peu spécialisée en génie logiciel. Dans cette école d'ingénieur, on était 2 filles dans la promo, enfin voilà, un peu déjà à l'époque avec très peu de filles présentes sur les bancs des écoles. Par contre, la chose un peu spécifique et agréable, on va dire, qui m'est arrivée quand j'ai commencé de bosser, c'est que vu que j'ai 44 ans et donc je suis un peu plus vieille que les filles qui parlent avec moi aujourd'hui, bah, en fait, j'ai eu la chance pendant 2-3 ans de côtoyer des femmes développeuses qui ont commencé leur carrière dans les années 60-70. Donc, en fait, quand moi, j'ai commencé de bosser en 2000-2001, ces femmes-là étaient en fin de carrière. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, des mentors, voilà, des filles qui avaient 40 ans de métier de développeuse d'ARL, même si ce n'était pas tout à fait les mêmes genres de métiers. Elles-mêmes se considéraient plus sur des métiers, on va dire, à base valeur ajoutée, etc., plus que comme des software engineers, rockstar, etc. Ça, on y reviendra justement sur ce stéréotype autour du métier de développeur et de développeuse. Mais on va dire que quand j'ai vraiment fait moi, mes premières armes dans l'industrie, j'avais pas mal de filles. Je rejoins tout à fait Zineb, c'est-à-dire qu'il m'a fait, sur le fait de se dire que bon, c'est quand même ça chez nous, dans beaucoup de pays occidentaux, quand on sort un peu de nos pays, il y a d'autres choses vachement intéressantes qui se passent ailleurs. Moi, au bout de 10 ans de carrière, j'ai fait un break pro pendant un an. Et avec mon copain, on est parti voyager dans plein de pays dans le monde à la rencontre de développeuses et de développeurs. Et ce que tu décris, Zineb, moi, je m'en suis aperçue à 30 et quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivée en Afrique, en Indonésie, dans certains pays d'Asie du Sud-Est, où là, j'ai pris une grosse claque parce qu'en fait, il y avait plein de filles. Plein de filles sur, à la fois sur les bancs de l'école, mais aussi dans les entreprises. Et avec des discussions qui étaient assez tournées autour des stéréotypes et de la technique. Donc, les filles indonésiennes que j'ai rencontrées, par exemple, qui avaient choisi de faire des études en informatique, elles me disaient, mais la problématique, elle est plus globale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne nous a jamais empêchés de faire de la technique, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'informatique ou pas. Quand on était petite, papa et maman réparaient des voitures et moi et mon frère, on apprenait à les réparer, quoi. Donc je pense que dans nos pays occidentaux, il y a une certaine propension à mettre les filles un peu de côté, qu'il s'agit de faire des choses un peu trop tech, et que je pense qu'on aurait tout intérêt à s'inspirer de pays non occidentaux, quoi. Alors que dans notre monde biberonné par les modèles de la Silicon Valley, on a tendance à honorer ces modèles des Western countries. Et je pense que vraiment sur la diversité de genre, on aurait vraiment tout intérêt à casser ce... Il y a d'autres intérêts d'ailleurs. Mais en tout cas, sur la diversité de genre, on aurait tout intérêt à casser ce modèle aspirationnel complètement de l'histoire.
Ben écoute, merci Agnès. Je pense que tout à l'heure, on reparlera un petit peu des rôles modèles, parce que je pense peut-être que c'est ce que tu faisais référence au début, de Duchesse aussi, parce que tu fais aussi partie de Duchesse, et on parlera dans la partie, et aussi de l'éducation non genrée, dont il est question. Alors j'en profite pour saluer les gens qui sont sur le salon web, notamment Guillermo, qui visiblement nous dit c'est un plaisir d'avoir l'opportunité de vous réécouter en direct. Donc voilà, apparemment cette personne a la chance de pouvoir nous écouter en direct aujourd'hui, et Marie-Odile qui est toujours présente, qui fait notre transcription, qui rappelle que s'agit d'une question d'éducation dès l'enfance. On va faire le tour de table de présentation initiale du parcours, donc par Annelise Marteneau, si on l'a récupéré. Annelise. Alors, est-ce qu'on a Annelise ?
Oui, c'est
vas-y.
Bon. Ça marche.
Vas-y.
Oui, donc c'est intéressant d'écouter Agnès et Zineb. Moi, c'est vrai que mon parcours, c'est aussi, ça commence dans mon enfance, parce que j'ai un grand-père qui est électronicien, musicien électronicien. Donc c'est aussi un intérêt pour les nouvelles technologies qui surgit à ce moment-là. Et puis sur le côté artistique. Donc moi je suis autodidacte, j'ai commencé par faire les beaux-arts. Et puis c'est pour des raisons politiques que je suis passée au code informatique. Puisque en fait... Bon, assez tôt, j'ai fait des effets spéciaux pour le cinéma et pour la télévision. Et à ce moment-là, moi, je rencontrais énormément de femmes. J'ai fait un des premiers stages que j'ai fait, j'étais encore mineure. C'était à l'American Center et c'était avec Michel Jaffrenou, avec Cécile Babiol, des gens comme ça. Et les premières machines à effets spéciaux, c'était avec une super... Super Nana, qui était à Microsimage, qui s'appelait Eve Rambose. Alors, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais je me souviens, j'avais été impressionnée parce que c'était des nanas derrière les machines. Et puis très, très rapidement, parce que même si Agnès disait « Ah ouais, je suis peut-être la plus vieille », pardon, c'est moi. J'ai 56 ans, donc ça fait un petit bail que je fais de l'informatique et que je me bagarre aussi et que je déprime un peu de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui quittent les lieux, notamment des femmes jeunes. J'ai une fille de 24 ans qui a des copines qui ont essayé le milieu informatique pendant un ou deux ans après avoir fait des écoles d'informatique et qui ont abandonné. Donc, il y a réellement quelque chose à résoudre là. Je pense que c'est pas seulement au niveau des femmes, mais c'est peut-être au niveau de l'accueil, et puis toujours dans toutes les questions féministes, de la façon dont les hommes pourraient avoir un profit aussi, un petit peu comme Baldwin disait que les Blancs auraient un profit aussi de pouvoir considérer les Noirs correctement, enfin, voilà, comme des êtres humains, ou je sais pas. Donc des fois, j'ai l'impression d'être un lapin et puis de réapprendre qu'il y a des chasseurs, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ma position de femme et je me bats assez souvent avec ça, voilà. Voilà mon parcours, mais c'est surtout autodidacte, contrairement aux deux grandes dames devant moi qui sont ingénieures et qui, voilà, que je me sens plus, je fais du développement web, et ça porte pas conséquence autant, mais c'est intéressant quand même, voilà.
Merci Anne-Lise, le développement web est important. La dernière émission qu'on l'a consacrée à la qualité web, justement, donc c'est l'émission 145, j'y renvoie les personnes qui sont intéressées, comment justement améliorer le web, tout simplement pour améliorer l'expérience d'utilisation des services web. Donc il ne faut pas du tout réduire ce que tu fais et le mettre en bas, en dessous de ce que peuvent faire Zineb et Anne-Lise, excusez-moi. Voilà, c'est en tout cas mon point de vue personnel.
Alors je peux juste préciser un truc. Ce que tu disais à l'instant sur le fait que c'était politique, ce que tu ton choix, on va dire, de rentrer dans l'informatique, c'est rigolo parce que tu vois, moi, je crois que tu développes sur c'est ce qui a été dit, tu développes sur SPI, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Absolument.
Et sache ça, c'est tu fais partie des gens qui m'ont inspiré. Je savais pas que t'étais plus âgée que moi, on a quelques années d'écart, pas beaucoup, mais tu fais partie des gens qui m'ont inspiré parce que quand j'ai commencé à me dire que je voulais faire des études d'informatique, c'est grâce à SPIP en fait. C'est-à-dire que moi, je faisais des études quelles qu'elles soient, et en fait, il y avait des médias indépendants qui se lançaient un peu partout dans le monde après un des sommets mondiaux de l'OMC à Seattle, ce qu'on appelle l'éclosion des médias dits alternatifs, avec les indie médias, etc. Et dans la ville où j'habitais en France, on a voulu monter ce média-là, et SPIP arrive, et je découvre un peu la magie de l'open source, il y a plein de gens qui bossent là-dessus, moi j'étais pas très bonne en PHP, mais bon bref, j'écoute ce truc-là, et bah figure-toi que voilà, c'est grâce à des gens comme toi que je me suis dit, en fait ça vaut le coup de faire des études là-dedans, parce que ce qui se passe à travers un outil comme SPIP est concrètement dingue pour moi, quoi. Et ultra inspirant pour des personnes qui peuvent être... pas forcément que sur la partie technique de l'informatique et qui ont envie de rejoindre l'informatique juste pour la technicité. Donc voilà, c'est juste pour souligner que je savais pas, tu vois, mais je viens d'apprendre que t'as été impliqué dans un projet qui m'a vachement motivé, quoi. Voilà.
Bah écoute, merci Anne-Lise pour cette précision. Je vais juste préciser que Anne-Lise est intervenue dans l'émission consacrée à SPIP avec Arnaud, l'un des fondateurs de SPIP. Donc c'est l'émission 123, donc vous faites libreavoue.org/123 et vous apprendrez que SPIP n'est pas qu'un projet technique, c'est aussi un projet politique. Mais je vous laisse découvrir tout ça dans l'émission 123 de Libre à vous. Après cette introduction, il y a des certains nombres de sujets qu'on peut être évoqués, qu'on reviendra tout à l'heure. Mais j'aimerais déjà un petit peu avoir, comme c'est un retour d'expérience, un peu votre constat sur plutôt les problèmes que vous avez pu rencontrer. Alors que ce soit dans le cadre de votre formation, de votre expérience professionnelle, de vos contributions à des projets libres, de conférences ou autres. Un petit peu une synthèse, un petit peu, ou en tout cas les principaux problèmes que vous avez rencontrés. Peut-être commencer par Zineb Bendiba.
Oui.
Vas-y.
Moi, les problèmes, en fait, vont plus être par rapport aux biais que certaines personnes peuvent avoir sur la femme. Alors, je vais parler de mon expérience dans l'informatique en global, parce que, du coup, sur 14 ans, j'étais pas tout le temps dans le logiciel libre. C'est plutôt, on va dire, ce qui me dérange, c'est quand certaines personnes ne m'écoutent pas, pour la première intervention que j'ai dans une réunion ou un meeting par des biais, parce que je suis une femme, peut-être, je ne sais pas, j'ai du mal en fait à comprendre, ou bien c'est d'assumer en fait certaines choses. Assumer que comme je suis une femme, je vais être intéressée plus par ce projet ou ce projet-là sans me demander mon avis. Après il y a aussi des fois des remarques sexistes qu'on ne voudrait pas entendre, mais ceci dit, c'est pas une globalité. En global, j'ai été dans des environnements qui sont bienveillants, accueillants et inclusifs. Des fois, c'est des environnements accueillants, mais pas tout à fait inclusif. C'est parce que certaines personnes, voilà, ça va être accueillant du part de managers, des personnes que j'ai rencontrées au début, des fois peut-être même toute l'équipe, mais pas forcément tout le monde dans l'environnement, ou bien pas inclusif dans le sens où j'aurais peut-être pas d'opportunité d'évolution ou de travailler sur des projets. Après, il y a des environnements qui sont très toxiques, où ils sont ni accueillants ni inclusifs, et dans ceux-là, je vais partir assez rapidement. Donc voilà, en global, et pour les biais, faut faire attention. Si j'avais des choses à dire, c'est de faire attention en fait à ce que, quand on communique avec une personne, que ça soit la même chose, quel que soit le genre. Genre, il y a quelques semaines, une personne qui m'a dit qu'une personne voulait lui faire, par exemple, un feedback constructif. Donc, elle allait faire un feedback à la personne pour lui dire quelque chose qui n'allait pas sur son travail, et qui va commencer la phrase par « J'ai quelque chose à te dire, mais j'ai peur que tu pleures. » Voilà, après j'ai essayé.
Parce que la personne à qui elle s'adresse, c'est une femme, c'est ça?
Voilà, c'est d'accord. Parce que okay. La personne à qui s'adresse, c'est une femme. Et en fait, ça, c'est un gros biais, parce que la personne devrait préparer son message pour le feedback constructif. C'est un peu des règles quand on fait des formations sur les feedbacks. Mais surtout, cette personne, en fait, doit réfléchir, en fait, si la personne est diverse, si on n'a pas l'habitude de parler à une personne de par le genre ou de la culture, de se dire, si je faisais le même discours à la même personne, qui est peut-être un homme blanc dans l'équipe, prenons comme exemple, est-ce que je vais dire le même discours? En fait, pour moi, de par mes biais à moi-même, je pense que la personne ne dirait pas la même chose si c'était un homme en face. Et si, du coup, le message va être différent si on s'adresse à une femme ou un homme, c'est qu'on a un biais, et c'est qu'on doit en fait faire l'exercice soi-même et se dire qu'on a un biais et qu'il faut qu'on travaille dessus. Après, voilà, il y a beaucoup d'autres exemples. Si on a dans un meeting où on va dans une conférence qui est donnée par une femme et un homme, est-ce qu'on va s'adresser, quand on a des questions, forcément que à l'homme et pas à la femme? Si on se trouve dans ce cas-là, se dire, est-ce que j'ai un biais? Voilà, c'est beaucoup en fait travailler sur les biais et s'assurer de pas assumer les choses sur les genres de par nos biais qu'on a nous de notre enfance et de notre vécu. Laisser les gens dire d'eux-mêmes ce qu'ils veulent faire de leur évolution, quel projet ils voudraient faire, et ne pas assumer à leur place, et voilà, et ne pas avoir une discussion, voilà, qui soit différente envers un homme ou une femme. Voilà, c'est pour moi les choses qui me marquent. Et puis la chose aussi, c'est que j'aime bien être dans des équipes où en fait les gens, en fait, ils assument que j'ai le niveau qu'il faut pour le poste. En général, je m'assure pendant les entretiens que ça matche bien avec les managers, les tech leaders que j'ai en entretien. Mais si dans l'équipe il y a quelqu'un qui va prétendre que mon niveau est très bas juste parce que je suis une femme par ses biais, en fait, ça va me mettre mal à l'aise dans cette équipe. Donc, si je dois rester longtemps dans une équipe, c'est quand j'y arrive et que tout le monde assume que je fais du mieux que je peux, que mon niveau est bien le bon, et de me faire confiance, en fait, dès le début.
D'accord. Agnès, de ton côté ?
Oui, alors, si je décris un peu les difficultés que j'ai pu avoir, on va dire qu'au démarrage, à part cette expérience pro où j'avais beaucoup de filles autour de moi, donc celles qui sont parties en retraite au début des années 2000, après, quand il y a eu beaucoup moins de diversité, c'est, on va dire, les mêmes difficultés que plein de filles peuvent avoir dans un milieu quasi non mixte où il y a beaucoup d'hommes. Donc des difficultés, oui, du sexisme, hélas, un peu ordinaire, et qui ne va pas forcément effectivement convaincre des personnes nouvelles qui arrivent dans ce métier-là de rester, quoi. Ça va de choses qui peuvent paraître plus ou moins anodines. Je me souviens, je donnais plein de formations sur Spring Framework, un framework open source, bref. Et je me souviens être rentrée dans des salles de formation en disant « Oui, c'est bien là, la formation Spring. » Et les personnes qui me répondent « Oui, d'ailleurs, ça serait bien que si vous pouviez nous apporter le café », alors que c'était moi qui donnais la formation. Des exemples comme ça, j'en ai plein, plein, plein. Et alors, vous pouvez les prendre en rigolant, c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu lassant, en fait. Et il y a toujours cet effet de, voilà, faut montrer qu'on connaît, etc. Et moi, j'avoue que je suis un peu lassée de ça. Il y a peut-être une période de ma vie où je voulais montrer que je savais, que voilà. Maintenant, j'ai plutôt tendance à déserter, en fait. Je dis pas que c'est bien, hein. Je suis pas forcément fière de ça, mais je veux dire, je vais pas m'épuiser, en fait. Voilà. On pourra parler du fait, par exemple, qu'on a fermé un Slack, le Slack public de Duchesse. Si ça vous intéresse, on peut en parler. Mais le fait qu'on l'ait fermé, ce Slack public, parce que beaucoup.
Explique ce qu'un Slack, simplement, s'il te plaît.
Ouais, un Slack, c'est une plateforme de communication, en fait, qui est pas libre, pour le coup. Et c'est une plateforme où tu as des channels de communication sur différents sujets. Donc, par exemple, nous, on a une association avec Ginette qui s'appelle Duchesse. Et pour parler de différents sujets, soit d'emploi, soit de conférences, soit de. Voilà, à chaque thématique, tu as une channel de communication. Voilà, ça classe un peu les communications et ça fait vivre une communauté pour que cette communauté, les membres de cette communauté puissent échanger de manière asynchrone. Et dans cette communauté, on avait voulu être mixte, c'est-à-dire que même si c'était une communauté de filles, il y avait toujours eu l'ambition d'être non mixte, donc d'avoir de dire oui à certains hommes. Et en fait, au bon moment, on s'est fait déborder, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait plus de filles qui passaient du temps à expliquer à certains mecs, c'était pas la majorité des gars non plus, mais à expliquer à certains mecs pourquoi machin, qui posaient toujours des questions un peu pénibles. Et en fait, au bout d'un moment, on était lassés, en fait. Vraiment, c'est le côté on a marre de passer plus de temps à expliquer à certains mecs pourquoi on a besoin de discuter de certains sujets qui sont potentiellement adressés plus aux filles. Et c'est un peu mon statut aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pas que je veux pas me battre, mais je vais plus essayer de me concentrer sur le fait de parler à des filles. Voilà, j'ai un peu j'ai quelques années d'expérience, donc parfois d'avoir avec Duchesse on fait beaucoup de marrainage, donc le fait de proposer à des personnes qui arrivent plus récemment dans l'informatique de pouvoir discuter dans un endroit un peu safe et tout ça. Je préfère me concentrer sur des actions comme ça que de me battre dans des milieux où beaucoup d'hommes ne comprennent ou ne comprendront jamais, quoi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'en suis un peu arrivée à ce stade. Et puis, des événements moins drôles aussi. Je me souviens que j'avais fait une conférence à Lyon en 2017 qui s'appelle le Blend Web Mix. Je ne mets pas en cause les organisateurs et l'organisatrice parce qu'ils avaient été plus ou moins bien, quand même. Ils avaient essayé de bien réagir, on va dire. Mais il y a des masculinistes qui sont venus à cette conférence et qui ont commencé à faire chier, à se mettre en fond de salle. Et chaque fois qu'il y avait une fille speaker, il commençait à crier au fond de la salle, « Oui, vous avez fait une politique de quota, la speaker, elle est nulle. » Bref, voilà. Donc là, c'est des événements moins joyeux parce que du coup, on parle plus d'attaque, là. Directement on vérifie. Donc ça, je le voyais pas il y a 20 ans, quoi. Je le vois un peu plus, de manière un peu plus courante aujourd'hui en France, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, j'essaie de choisir aussi mon milieu professionnel pour être confrontée à des gens qui sont agréables, en fait. Ça fait partie de mes choix, en fait, de choisir mon environnement, et j'irai plus forcément m'épuiser à convaincre les hommes qui seront peut-être jamais convaincus, quoi. Voilà.
D'accord. Alors, juste avant de passer la parole à Anne-Lise, je vais juste préciser que Duchesse France est une association qui est destinée à valoriser, à promouvoir les développeuses et les femmes avec des profils techniques. Hein. On en reparlera sans doute tout à l'heure, et en tout cas, on mettra toutes les références sur le site de l'émission, hein, sur libreavoue.org. Donc, même question pour Anne-Lise. Est-ce qu'Anne-Lise est encore avec nous? Alors, soit il y a peut-être un délai, ou elle s'est déconnectée? Non? Bon, on va essayer de la... Ah, Anne-Lise, alors... Je
la vois toujours. Non, elle est déconnectée.
Elle vient de se déconnecter. Je vous donne un petit peu les coulisses de l'émission. Hein. Donc, Zineb est avec moi, donc, au studio. Agnès et Anne-Lise sont à distance avec un outil. Donc, Anne-Lise est en train de se reconnecter. Donc, on la laisse se reconnecter. Voilà, l'outil, c'est un logiciel qui s'appelle Mumble. Hein. C'est un outil d'audioconférence libre qui nous permet d'intervenir à distance. Donc, on a normalement récupéré Anne-Lise. Donc, Anne-Lise, c'était même question pour toi sur un petit peu... Vas-y, je te laisse parler.
Oui, enfin, moi, bon, évidemment, comme je pense beaucoup de femmes, et puis notamment, enfin, puisqu'on parle depuis la France, en tout cas en France, moi j'étais assez désespérée depuis longtemps, hein, voilà, du système patriarcal en place. Quand j'ai commencé à contribuer à SPIP, j'avais déjà une petite fille, c'était en 2002. Et les fois où je m'exprimais sur SPIP, je m'exprimais en français neutre, c'est-à-dire que je passais pour un homme. Tout ça pour m'éviter des remarques ou quoi que ce soit. Même si l'équipe de SPIP était très sympa, finalement, je ne les avais jamais rencontrés. Donc quand je les ai rencontrés, c'était assez drôle parce que ah bah tiens c'est toi, voilà. Et donc il y a un moment où j'ai assumé d'être une femme, donc j'ai fait mon coming out, c'est ce que je racontais la dernière fois, mais donc j'ai dit bon ok, j'assume mon genre, je suis une femme et ce serait bien qu'il y ait d'autres femmes. Et là je me suis ramassé une volée de bois vert d'un côté et puis de l'autre côté énormément de soutien. Donc il y a quand même eu vraiment une prise de conscience, je pense, à ce moment-là. J'ai fait une micro-conférence à Paris Web, à Sud Web, sur les représentations des personnages, des icônes du web. C'était une micro-conférence, mais n'empêche que l'année suivante, à Sud Web, il y avait autant de femmes invitées des conférencières que de conférenciers. Donc ça, c'était... J'étais contente que mes petits pics soient été entendus. Et comme si, il fallait tout d'un coup faire que les gens ouvrent les yeux. Après, il y a des gens qui n'ouvriront jamais les yeux. Et puis après, il y a aussi le fait qu'on est dans un bain patriarcal. Et ce bain patriarcal, on le subit nous-mêmes en tant que femmes. Enfin, en tout cas, moi, je le subis. Parce que je vais avoir le syndrome de l'imposture, je vais me sentir diminuée si je trouve qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Je vais pouvoir prendre des projets en indépendante et les mener jusqu'au bout. Alors que si je suis confrontée à des hommes, ça va être beaucoup plus difficile. Mais c'est mon propre ressenti qui fait que je me diminue. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour redonner confiance aux femmes, notamment quand elles sont plus jeunes, etc., et puis leur dire « mais si, c'est possible ». Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des femmes, que ce soit des graphistes ou des copines en SEO, en référencement, et du coup, on fait équipe, parce que c'est très important de faire équipe et de ne pas être en indépendante uniquement. Voilà, mais ça, c'est vrai que c'était un truc que je voulais souligner. Après, dans les anecdotes, il y a des trucs assez marrants, parce que j'ai un client qui me demande si je ne peux pas le former au PHP, pour qu'il puisse faire comme moi. Donc, c'est quelqu'un qui prend Dreamweaver pour faire du... Enfin, qui prend un logiciel spécial pour faire du HTML. Et donc... j'ai le sentiment, parfois, ça me surgit, ça me saute aux yeux, qu'on imagine que c'est parce que si une femme peut le faire, alors moi aussi je peux le faire, j'ai pas besoin de formation. Et c'est un petit peu cette non-professionnalisation. Moi j'essaye de dire, c'est un métier, c'est des années de travail, pour moi c'est 20 ans de travail, ça va pas s'apprendre en 6 mois. Je veux bien, j'adore partager, j'adore montrer, j'adore vulgariser l'informatique. Mais c'est pas parce que je suis une femme que tu vas pouvoir me remplacer dans mon travail. Voilà, parce que parfois, quand je contribuais et que j'avais en retour « Ah, si tu as déposé ta contribution sur le serveur, c'est parce que tu avais besoin de notre aide. » Donc voilà, c'est un peu... c'est humiliant parce que c'était des projets qui étaient en production déjà et on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Donc c'est vrai qu'on cherche plus des alliés qu'à combattre, parce que comme dit Agnès, on se fatigue très très vite. Donc maintenant, oui, je cherche des alliés et j'essaye de continuer à intervenir chaque fois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du féminisme, c'est-à-dire de la nécessité qu'il y ait des femmes qui entrent en égalité avec les hommes dans des projets libres, de manière à pas baisser les bras. Donc des fois, c'est dur parce que ça veut dire après qu'il y a des gens qui vont se fâcher contre moi parce que je défends cette position et qui vont me refuser du travail. Donc voilà, c'est le prix à payer. C'est ce prix-là aussi à payer quand on est une femme. Et après, je suis pas représentante des femmes, c'est ça aussi, des fois que je dis. Mais bon, voilà, mon petit mot là-dessus.
Merci Annelise. Et effectivement, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est votre retour d'expérience qui est différent, mais qui se rejoint sur certains points. Ah, tout à l'heure, on va reparler des alliés. Je vous demanderai, je relaie une question qu'on a eue en introduction, mais j'avais une question suite à ton intervention, Annelise, pour Zineb et Agnès. Tu as parlé du syndrome de l'imposture, qui est cette impression de ne pas se sentir, de pas se penser suffisamment à la hauteur et de douter de soi en permanence que tu as. Est-ce que Zineb et Agnès, vous avez eu aussi ce syndrome, ou vous avez encore toujours ce syndrome de l'imposture? Zineb
Moi oui, après J'ai l'impression que c'est pas par rapport au, que je suis femme, mais plus par rapport de ma culture où j'ai grandi et puis qu'on m'a mis la barre très haute sur mon niveau d'études. Ceci dit, j'ai remarqué que du fait que je suis une femme dans la tech et qu'on me demande de montrer et tout le temps que ça a fait qu'aggraver les choses. Et si en fait je ne contribue pas dans le logiciel libre depuis des années, ce que j'avais dit dans mon intervention à Open Source Experience, c'était de par mon syndrome de l'imposteur. Et en plus, je ne savais même pas que ça existait avant. Du coup, c'est grâce au Duchesse France que j'ai connu, que je travaille dessus. Et puis aujourd'hui, j'estime que en fait, je l'ai toujours, mais voilà, je vis avec. Des jours, je l'ai, et des jours, non. Et du coup, ben, j'avance. En tous les cas, s'il y a quelque chose que je veux absolument faire et que on me propose de le faire, comme venir parier aujourd'hui ici, même si ça me fait peur, bah du coup je le fais si j'ai vraiment envie de le faire. Je vais avoir un petit stress avant, mais du coup, voilà, il y a 2 ans, bah j'aurais dit non, ça va pas, voilà, j'ai rien à apporter. Du coup, bah en travaillant dessus et en entendant beaucoup de gens et en discutant de par en fait les communautés, en discutant beaucoup avec les personnes, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'ont, et du coup ça me fait avancer, mais effectivement ouais, je connais et je vis avec, voilà.
D'accord. Et ton côté, Agnès?
Oui, bah je l'ai toujours, hein. Enfin, je veux dire, chaque fois que je rejoins une conférence très tech, chaque fois que, là j'ai changé un petit peu de boulot depuis que je bosse chez Fairphone, je fais un peu plus de choses relatives au Linux kernel, enfin des choses que je connaissais pas il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, on va dire, même. Et je découvre une communauté qui est encore plus masculine que celle où j'étais avant, et avec un inconfort technique, parce que je connaissais rien au Linux kernel il y a encore 5 ans. Donc ça vient de là aussi, le fait d'être une fille, ça aide pas, en tout cas, même moi qui ai 20 ans d'expérience, j'ai pas l'impression que ces 20 ans d'expérience mettent beaucoup là-dessus. Et récemment, un exemple tout con, quoi, mais bon, c'était plus un exemple très niche sur une pull request, peu importe, mais bon, de manière consciente, je pense que j'étais pas très à l'aise sur le fait de pousser un changement en open source, quoi, et je me suis vue, et de fait d'être une fille, j'avais peur de subir, on va dire, plus, parce que moi j'utilise pas de pseudo, enfin bon, bref, on voit que je suis une fille quand je pousse quelque chose. De par mon nom, et je me suis vue peut-être demander à un collègue de pousser pour moi, enfin, voilà. Donc il y a encore, alors que c'est pile, je dois pousser moi-même, mais je me vois encore avoir ce genre de réflexion, en disant, oh, bah, ça sera peut-être plus simple si Lucas il pousse et pas moi, enfin, voilà. Donc oui, le syndrome de l'imposteur, enfin, moi je l'ai toujours, quoi. 20 ans après, je l'ai toujours.
Alors, j'ai juste précisé, quand tu parles de pousser, en fait, en gros, c'est de proposer une modification sur un
oui,
projet
pardon.
Libre ou autre. Voilà, j'ai précisé parce que peut-être que les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas ces terminologies, pourraient se demander ce que veut dire pousser, mais en gros, c'est ça, c'est proposer une modification, que ce soit un rajout de fonctionnalité ou de corriger un bug. Je vais relayer une question qu'il y a eu sur le web, alors, sur le salon web, alors la deuxième, là, Mario D, j'ai bien vu ta question et je la relayerai tout à l'heure. Donc, c'est Étienne qui demande, est-ce que vous avez le sentiment que sur le nombre de femmes qui travaillent dans les métiers de l'informatique, il y a une proportion plus importante de femmes qui ont une conscience politique féministe que dans la société en général, ou c'est à proportion équivalente? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question?
Alors, je peux peut-être rapidement
Agnès, apprendre, vas-y.
Mais en tout cas, mon point de vue, je me souviens je vais prendre l'exemple de Duchesse, mais quand on a monté Duchesse, moi j'étais très impliquée dans les milieux féministes, mais je séparais ces deux mondes-là, parce que les filles avec qui on a monté Duchesse, enfin, moi j'ai pas monté Duchesse France, mais j'ai rejoint le groupe 6 mois après, et les filles qui l'ont monté, puis d'autres qui sont venues par ailleurs plus tard, étaient plutôt pas forcément, et puis de respect pour ça, hein, pas de souci, mais pas très politiquement ancrées dans le féminisme, on va dire. Et on avait toujours toute cette habitude de dire oui, bon, voilà, on reste très inclusif, on est ouvert aux garçons, voilà, le mot féministe faisait un peu peur, en tout cas pas moi, mais certaines de mes potes de Duchesse. Et alors, 10 ans après, je trouve que ça on est vachement plus confortable à parler de féministe, quoi. Parce que vraiment, c'est plus un mot qui fait peur certaines. Le fait de fermer ce fameux Slack dont je parlais tout à l'heure, du public de Duchesse, Voilà, si vous lisez un petit peu le contenu d'explication, bon, il n'est pas ultra radical, mais quand même, je veux dire, il y a un propos un peu plus clair qu'avant. Donc, à l'heure actuelle, je dirais que les communautés de filles sont au moins de tabous sur le féminisme. C'était moins le cas il y a 10 ans, je trouve.
D'accord. Annelise ou Zineb, vous voulez rajouter quelque chose? Zineb déjà, vas-y.
Ouais, moi, ça serait pas une généralité, mais ça va être juste mon expérience. Mais effectivement, entre les communautés où je suis, où il y a des femmes, voilà, soit des groupes qu'on a créés entre copines dans le logiciel libre ou via les Duchesses France, c'est très différent de mes potes en fait en général, où en fait je vais voir beaucoup plus de féminisme. Sur le Slack Duchesse, je vois, on a carrément un channel du coup féminisme où on va avoir beaucoup d'informations relayées. Donc après, c'est la vision que moi j'ai, mais du coup, je connais pas tous les milieux pour savoir, mais de ma propre expérience entre ma vie perso et mon côté communautaire, même si c'est pas forcément pendant mon temps de travail, mais de communautaire dans ma vie pro, j'ai l'impression que dans ces groupes-là de femmes dans l'informatique ou des femmes dans l'informatique logiciel libre, il y a beaucoup plus de féminisme. Et même moi, en fait, qui ai été féministe depuis mon enfance, j'ai l'impression que ces dernières années, j'ai beaucoup grandi par rapport au fait que je suis dans ces communautés-là.
D'accord. Est-ce que, Annelise, tu voulais apporter quelque chose sur cette question?
Oui, disons que c'est vrai que moi, je pense que, par rapport à ce que disait Agnès tout à l'heure, que le féminisme est devenu, pour moi, que le féminisme est devenu une valeur dans le libre, on va dire, parce que aujourd'hui, quelqu'un qui sortirait des propos sexistes, il se fera plus rapidement rembarrer qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans, où il y avait beaucoup de choses qui... c'était pas possible, il y avait tellement de choses à modifier que c'était difficile quand on était en minorité comme on l'est encore aujourd'hui, mais maintenant c'est devenu quand même quelque chose d'acquis, en tout cas pour je parle toujours pour les alliés, c'est devenu quelque chose d'acquis, et si quelqu'un dit une connerie, ce sera les alliés masculins qui vont intervenir. Après, quand on parle de diversité, la diversité de genre, c'est pas seulement hommes et femmes, il y a les non-genrés, etc. Il y a des bisexuels ou des transgenres. Bref, c'est quand même assez large, et donc c'est aussi une demande d'ouverture qui est nécessaire, parce que je pense que c'est social. Mais pour répondre précisément à la question, je pense que dans l'informatique, quand on est une femme, on est... C'est pas possible de pas prendre conscience de ça, parce que c'est tellement violent que si on résiste pas en étant féministe, on n'a plus qu'à plier bagages et repartir. Parce que c'est vraiment... il faut quand même avoir une grande gueule, j'ai l'impression. Hein.
Tout à l'heure, t'as employé le terme d'allié. Alors déjà, avant d'aborder... Allié, est-ce qu'il y a une évolution sur la prise de conscience de ces questions de genre dans le monde de l'informatique et du logiciel libre ces dernières années? Moi, c'est mon impression, mais je ne sais pas si vous, c'est l'impression que vous avez, si vous le vivez. Est-ce qu'il y a une prise de conscience vraiment de l'importance, notamment pour les garçons, de changer leur comportement, d'avoir des choses, que ce soit dans les projets libres ou dans les entreprises? Zineb.
Déjà, en fait, ce sont des sujets sur lesquels maintenant on en discute. Donc, on voit ça pas mal dans les conférences, dans des meet-up. Si on voit le guide de l'open source, des projets open source, par exemple le site opensource.guide, je prends un peu au pif, on va voir quand on va parler de l'importance, en fait, vu que la communauté est au cœur de l'open source, on va parler de l'importance, en fait, d'avoir des communautés qui soient accueillantes, d'avoir un code de conduite, voilà, et de pouvoir l'appliquer. Donc, on a déjà des fondations qui ont déjà mis ça en place, et après, ça va aller d'un projet à un autre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une partie des gens pour qui c'est important. Il y a des personnes qui vont, vont faire des fois un commentaire négatif si ils arrivent dans une conférence et en fait qu'il n'y a que des hommes, par exemple. Je vais parler au sens large et pas forcément que dans l'open source. Il y a des personnes qui maintenant sont sensibilisées et qu'ils n'acceptent pas, en fait, en tant que participants, de participer à un événement qui n'est pas mix, où les gens ne sont pas représentés. Maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, une grande partie des gens sont toujours neutres. Donc, peut-être qu'ils sont d'accord, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord, on ne sait pas, mais en tous les cas, ils laissent les choses faire, et j'ai l'impression que, voilà, même si ça avance, il y a une grande majorité de personnes qui ne vont rien faire et qui sont là juste à se dire je suis neutre, c'est peut-être pas mon problème. Et,
alors, voilà. Je vais rebondir sur, avant de laisser et je laisserai après la parole à Agnès et Anis pour réagir, mais est-ce qu'on peut rester neutre sur un tel sujet, en fait? C'est pas possible. Parce que si on reste neutre sur un tel sujet, c'est qu'en fait, de facto, on valide la situation actuelle. Non?
Oui, après, je ne sais pas si ça fait peur aux gens de se positionner sur ça. C'est à peu près ce qu'on avait dit sur le Slack des Duchesses, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes et on n'a pas de problème avec la majorité, il n'y a qu'une minorité. Mais du coup, ça va être que les femmes entre elles qui vont répondre. C'est-à-dire que les autres, ils vont se dire, c'est d'accord, peut-être pas ma cause. Donc, je suis là parce que je suis pour la diversité. Mais voilà,
je comprends.
Je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont actifs ou pas. Peut-être que c'est juste qu'ils n'étaient pas actifs. Hein, mais voilà, c'est des fois, des personnes ne vont pas prendre la défense d'autres personnes parce que peut-être que ce n'est pas leur problème. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a une grande partie des gens qui est encore un peu neutre, mais on commence quand même à avoir, en tous les cas moi, de par le fait que je suis dans les Duchesses, il y a plus de personnes qui vont venir me voir dans des événements, donc des hommes qui vont venir dans des événements et y discuter en fait diversité avec moi, de par eux-mêmes, et de me dire qu'ils veulent faire les choses pour améliorer les choses dans leurs équipes et qu'ils voudraient savoir voilà, un peu plus. Mais je ne sais pas si c'est juste parce que ce sont dans les communautés et qu'est-ce que ça donne pour le reste du monde dans l'informatique, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'est juste une minorité ou pas.
D'accord. Agnès, puis Annelise, sur cette question donc de la prise de conscience de l'importance de faire quelque chose, est-ce que vous avez noté une évolution, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative, hein, Agnès?
Alors, moi, je suis partie 3 ans aux Pays-Bas et puis je suis revenue cet été, l'été dernier, donc il y a bientôt 1 an. Alors, j'étais assez optimiste quand j'étais aux Pays-Bas parce que c'est pas tout à fait la même culture. Culture anglo-saxonne, protestante, enfin bon, bref, où il y a peut-être une prise de conscience qui est un peu plus poussée. Donc, j'avais l'impression que c'était en fait le monde qui changeait dans le bon sens. Et puis, je suis revenue en France. Je me suis dit, non, en fait. je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, je fais la distinction entre les deux. Donc, aux Pays-Bas, je trouve qu'en tout cas, même si c'est pas tout simple, même si tout n'est pas simple, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience qui est beaucoup plus forte. Moi, tu vois, dans la boîte où je bosse, il y a de suite. Quand on poste une annonce de poste, on se pose la question de dire, tiens, est-ce qu'on n'irait pas parler avec des communautés qu'on a l'impression qu'on touche pas vraiment. Donc récemment, par exemple, on voulait envoyer justement une offre de poste tech sur les communautés trans. Enfin, voilà, il y a cette question de l'ouverture, en fait, et de l'effort à faire sur l'ouverture, sur comment on peut être plus diverse. Alors qu'en France, en revenant en France et en discutant dans les milieux de confins, du coup, je bosse en remote pour faire fun, donc je bosse pas en France, j'ai pas de milieu professionnel en France, mais je fréquente des événements français et tout ça. Et il y a moins cette volonté, je trouve, en tout cas, d'action, en fait, de remise en question de ce qu'on peut faire, nous, pour que ça change, en fait. Et récemment, j'étais à une conférence où on me posait toujours la question on fait des call for paper, il n'y a jamais aucune fille qui propose des papiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, si on s'arrête à se dire que, il n'y a pas de filles qui proposent des sujets au call for paper, et si on se dit, c'est comme ça, c'est dommage, c'est sûr que ça ne va pas faire grand-chose, quoi. Moi, je pense qu'il faut, et en France, je ne trouve pas que ça ait beaucoup changé ces dernières années sur la capacité des gens à s'interroger réellement sur ce qui pourrait changer, quoi. Et ça, je trouve ça. Et typiquement, par exemple, ça peut passer par le fait de se réinterroger soi-même. Il y a Isabelle Collet qui cite tout le temps l'exemple de l'université de Carnegie Mellon, si je ne me trompe pas, vers Pittsburgh, qui avaient identifié 7% de femmes dans leur filière d'informatique. Et ils ont fait des sondages, ils sont allés voir des sociologues, ils sont réinterrogés sur tout leur enseignement. Ils ont donné des cours sur le genre, ils ont essayé de vraiment revoir leur processus de recrutement, etc. Au bout de 2-3 ans, ils sont arrivés à 45% de filles, 40%, je ne sais plus. Bref, mais il y avait cette volonté de se réinterroger sur nos pratiques, quoi. Là, je trouve que justement en France, il y a quand même vachement ce truc-là de cet effetiste, de c'est comme ça, ça s'arrange pas. Bah ouais, mais typiquement, si on fait pas d'efforts pour aller chercher des personnes différentes, rien ne changera, quoi. Typiquement des quotas, la politique des quotas, moi je trouve pas ça merveilleux, mais en même temps ça peut marcher à un moment donné. Je fais partie d'une conf, organisatrice d'une conf qui s'appelle Mixit. On revendique le fait qu'on va chercher des filles, on le dit, donc ça peut ressembler à une politique de quota, quoi. Volontairement on va chercher des filles, etc. Et bon, on se fait encore défoncer, il y a encore des gens qui nous disent bah dis donc, Mixit, la politique des quotas et tout ça, et je trouve ça un peu triste, quoi.
D'accord. Préciser, Call for Papers, tout à l'heure, en fait c'est des appels à conférences pour faire des conférences, et Mixit, alors là tu vas me corriger si j'ai une erreur, c'est à Toulouse, hein, c'est ça?
Non, c'est à Lyon, c'est une conférence qu'on organise depuis, on vient fêter nos 10 ans il y a 15 jours, on a... Conférence tech et éthique, voilà, sur Lyon.
D'accord, à Lyon. Touti sur cette question, excusez-moi, c'est son surnom, Anne-Lise, sur cette question de l'évolution de la prise de conscience de cette question de genre.
Mais écoute, moi je suis un peu, je partage beaucoup le point de vue d'Agnès. Moi j'ai repris mes études à 43 ans, j'ai fait Hypermédia Paris 8, voilà, Master 2. Je suis partie à Sarajevo, j'ai fait le... J'ai tenté de faire le site du musée national de Bosnie-Herzégovine, je suis revenue, enfin bon, voilà. Mais en fait, je passais ce master, donc c'était il y a 15 ans, un peu moins de 15 ans, j'ai passé ce master parce que je voulais quitter la France, parce que j'en avais marre de son patriarcat, j'en avais ras-le-bol d'avoir un plafond de verre à chaque fois, parce que j'ai bossé dans des grosses boîtes. Et que j'étais technicienne et qu'à partir du moment où j'ai eu un enfant, j'allais pas être chef de projet, j'avais plus le temps, on me le reprochait, et puis si on me le reprochait pas, ce serait moi qui me le reprocherais parce que les autres travaillaient 14 heures par jour, parce que c'est des boîtes où c'est l'ultralibéralisme, et bon, c'est des grosses boîtes de post-production cinéma, d'effets spéciaux, mais donc à chaque fois j'ai dû changer et donc vraiment, j'étais fatiguée de ça. Non pas que je voulais faire carrière, c'était pas ça qui m'intéressait. Moi, j'étais longtemps au RSA, etc. Parce que j'ai suivi les projets libres et j'ai soutenu des projets politiques où j'étais bénévole. Hein. Bon, voilà, ou payer des cacahuètes. Mais j'avoue que je voulais partir à Berlin ou à Montréal, et c'est pour ça que j'ai mis mes études. Et aujourd'hui, j'ai renoncé, je suis restée en France. Mais je vois pas d'amélioration, vraiment, même avec MeToo, etc. Ce que je vois comme amélioration au niveau de SPIP, que je connais le mieux, c'est l'usage de l'écriture inclusive, qui est quand même un petit pas, quand même, d'invitation aux femmes, et à considérer qu'il n'y a pas que des hommes, voilà, au moins. Et même chose pour le fait que toi, tu nous invites, tu vois, je trouve que c'est super. Enfin, qu'il y ait un petit peu plus de visibilité pour les femmes et qu'on se questionne. Mais des solutions ou des... on a toujours l'impression que ce sera aux femmes de trouver ces solutions. Mais maintenant, c'est pas aux femmes de trouver les solutions, parce que tout le monde en profiterait qu'il y ait plus de femmes dans des boulots d'informatique.
Alors,
même dans la structuration même. Hein.
Alors j'ai une question qui est presque finale, parce que le temps passe très vite, et je précise, vous l'avez peut-être remarqué, on n'a pas fait de pause musicale contrairement à ce que j'ai dit, mais le temps passe vite. J'ai une question, vous avez employé tout à l'heure le terme allié, donc je relaye une question qu'on a eue en préparant l'émission, qui est quelles actions concrètes, alors réponse courte, hein, si possible, que peuvent faire les garçons libristes pour que les femmes viennent dans leur projet? Est-ce qu'il y a une ou deux actions prioritaires ou des comportements qu'il faut avoir pour qu'effectivement, les femmes libristes se sentent accueillies? Alors, comme tu avais la parole, Anne-Lise, je te laisse répondre sur cette partie-là déjà en premier. Anne-Lise.
Oui, c'est bon, je suis sûr. Non, parce que je passe d'un écran à l'autre. Donc, oui, écoute, ça me gêne vraiment cette question, parce que moi, j'ai pas expliqué aux mecs ce qu'ils ont à faire. Merde, je sais pas, moi, c'est comme si tu disais aux chasseurs, attends, on va t'expliquer, pousse ton fusil, mec. Comment dire, je sais pas, oui, la déconstruction masculine, s'intéresser, lire, regarder sur Internet, qu'est-ce que les femmes disent, de quoi les femmes se plaignent. C'est, je sais pas, c'est même pas, ça va élargir au-delà du libre, hein, mais bon, quand tu sais qu'il y a, je sais pas combien de femmes, moi, toutes les femmes de ma génération, j'en connais pas une qui n'a pas été violée quand elle était enfant, bon, tu te dis, merde, c'est pas possible. Donc, il y a un moment, t'apprends où le respect, comment, à l'école, par des publicités, je sais pas, il va falloir inventer des choses, mais au mec de trouver aussi, hein.
D'accord.
Donc,
D'accord.
voilà.
Non mais cette réponse me va là, j'en profiterai par exemple pour citer en tant qu'homme un podcast qui m'a beaucoup appris qui s'appelle « Les couilles sur la table » de Victoire Tuaillon. Et il y en a d'autres, peut-être qu'on citera à la fin. Donc même question, et la réponse peut être la même, hein, à Agnès et Zineb. Agnès déjà.
Ouais, les couilles sur la table, c'est rigolo que tu le mentionnes parce que c'est vraiment dans la bouche de plein de garçons. Donc Victoire Tuaillon, je pense, a fait une belle réussite là-dessus, à inviter des garçons à s'intéresser à ça. Moi, je pense que effectivement, le fait que vous nous invitiez aujourd'hui, c'est typiquement ce genre d'action qu'il faut faire. Après, je pense aussi qu'il faut réinterroger les organes qui représentent un peu le milieu de l'informatique aujourd'hui en France, donc les conférences, les employeurs, ce genre de process qu'il faut revoir, les process de recrutement. Pourquoi pas jouer l'anonymat sur le genre, enfin, ce genre de choses, tu vois, qui pourraient faire changer un petit peu les pratiques. Et puis, il y a énormément de choses, je pense, à faire au niveau de l'éducation. Énormément de choses sur les process de recrutement sur les filières scientifiques des filles, quoi. Primaire, collège, etc. Je citais l'université qu'avait étudié Isabelle Collet. Elle a aussi étudié une université norvégienne qui s'appelle NTNU et qui a fait des quotas. Ah bon, bref, je pense qu'au niveau éducation, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à faire. La nouvelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, la NTI, NPI, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette option informatique.
Hein. NSI.
NSI, voilà. Je crois que les derniers papiers que j'avais lus dans le monde, le pourcentage de filles est très, très faible. Donc ça veut dire que dès le lycée, on est déjà sur des problématiques, quoi. Et ce qu'a fait Carnegie Mellon, la fameuse université vers Pittsburgh, c'est que ils ont essayé justement sur la présentation de ce genre d'options d'être le plus inclusif possible et pas de jouer sur des termes techniques qui de facto vont pouvoir éliminer des gens qui sont potentiellement éloignés de la technique. Ils ont plutôt fait une présentation de leur option informatique en disant, si vous ne savez pas programmer, c'est pour vous, quoi. Parce qu'ils ont observé que beaucoup plus de garçons avaient des bases de programmation ou des bases de choses tech entre 14 et 15 ans, parce qu'il y avait plus de jeux vidéo, etc. Enfin bon, bref, il y a plein de raisons à ça. Et donc, du coup, ils ont changé leur présentation d'option en la rendant quelque part plus ouverte à des personnes qui n'ont pas de background. On parle de personnes de 14, 15, 16 ans, 18 ans, voilà, de jeunes personnes, quoi. Bah ça, typiquement, ce serait super. Voilà. De réinterroger ces process, quoi.
D'accord. Je vais juste préciser que NSI, ça veut dire numérique et sciences de l'information, si je me souviens bien. Zineb, toujours sur la même question.
Ouais, alors du coup, j'ai pas de recette miracle, mais déjà, en fait, il y a peut-être pas assez de femmes au niveau senior, mais des fois, de réduire la barre pour l'entrée en fait dans des sociétés comme la mienne qui recrute des gens dans l'open source. J'ai déjà vu dans le passé des offres d'emploi de certaines sociétés avec des petites étoiles qui disaient si on n'était pas contributeur ou contributrice, on ne pouvait pas, par exemple, ça ne servait à rien de postuler. Donc du coup, ça ferme un petit peu à avoir plus de diversité. Moi, je n'étais pas une contributrice et pourtant, je suis arrivée avec un niveau senior dans mon projet, dans ma boîte pour travailler dans l'open source parce que même si je ne contribuais pas, j'ai quand même 12 ans d'expérience et j'ai quelque chose à apporter et j'ai un point de vue qui est divers sur... Et je suis différente des autres et j'apporte quand même quelque chose à l'équipe. Pour ce qui concerne, en fait, on a certains projets. Alors moi, mon projet, mais du coup, il y a beaucoup de projets qui vont participer à des programmes de stage du style Outreachy pour avoir des jeunes stagiaires, en fait, issus des milieux qui sont sous-représentés. Pour les sociétés qui utilisent l'open source et qui ne le... qui ne contribuent pas, bah, peut-être encourager les gens à contribuer sur leur temps de veille. Déjà, ça permettra à ces sociétés de redonner un petit peu à ces logiciels libres qu'ils utilisent souvent gratuitement, mais aussi, bah, en fait, ça permettrait aussi de faire monter en compétence les personnes qui travaillent dans leurs équipes, parce que si elles contribuent dans le projet, elles apprendraient encore plus de la des librairies que ces personnes-là utilisent. Ne pas hésiter des fois à se poser la question si on a vraiment besoin d'avoir une personne qui a 20 ans d'expérience ou si on pourrait prendre une personne junior et la former, parce qu'il y a beaucoup de femmes juniors, mais il y a surtout, on a vu ces dernières années, beaucoup de femmes en reconversion et qui ont du mal à trouver un travail. Donc si vous êtes des leaders techniques, bah, peut-être c'est aussi une façon en fait de ramener ces personnes-là sur vos projets, et puis espérant que vous êtes sur des projets, voilà, open source, de aussi ne pas prendre forcément Bac plus 5, etc., parce qu'on a tous, il y a de la place pour tout le monde en fait dans l'open source et dans l'informatique. Donc voilà, il y a, et surtout le plus important, parce que c'est souvent nous, les femmes qui sont déjà minoritaires, qui prenons de notre temps perso pour aller essayer de chercher des femmes, etc. Le truc, c'est que nous, on peut pas faire ça tout le temps, toute l'année, parce que bah, on a aussi nos projets perso et pro, et donc on peut pas toute l'année, tout le temps dans notre moment mentorer d'autres personnes, essayer d'aller chercher. Donc du coup, c'est un peu le travail de tout le monde de prendre sur son temps pour travailler sur la diversité dans les projets, pour mentorer des juniors sur son projet, etc. Voilà, c'est pas les femmes qui sont minorités qui vont faire ça en fait tout le temps. Donc voilà, c'est un peu mon petit point.
D'accord. Alors, la dernière question pour chacune d'entre vous. Je vais regrouper deux questions. On va déborder un peu, mais c'est pas très grave. Donc, en moins de deux minutes chacune, à la fois si vous avez des conseils de lecture ou autre, des annonces à faire, et puis surtout la question, quels sont selon vous les éléments clés à retenir de cet échange en moins de deux minutes chacune? Donc, on va commencer par Anne-Lise Marteneau.
Ok. Comme on parlait de diversité, voilà, c'est diversité de genre, mais ça peut être aussi diversité sociale ou culturelle, voilà. Puis ça, c'est aussi pas mal important. Et concernant les femmes, oui, il y avait beaucoup de femmes dans les années 80 en informatique, hein. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut changer, voilà. C'est peut-être des espaces de pouvoir, mais voilà, c'est des espaces de pouvoir à repartager. Et comme dit Zineb, je trouve que c'est effectivement toute personne de tout niveau peut participer, ne serait-ce que en remontant des bugs ou des problèmes qu'il y a à utiliser un logiciel. Et ben ça fait la participation au libre, elle est ouverte à toutes et à tous. Voilà.
Super. Agnès Crépet.
Oui, ce que je retiens, bah, c'est que ouais, on a touché des points qui dépassaient l'informatique, quoi. Ça, j'ai bien aimé le fait de dire que la problématique, elle est aussi systémique. On a parlé de patriarcat et que l'avancée de la prise en compte de ces problématiques au niveau du système, donc de l'environnement de la cité quelque part, ça sera peut-être clé par rapport à la diversité dans l'IT, quoi. Voilà, on avancera que si le reste avance. Je suis pour toi.
Non mais très bien, merci Agnès. Zineb Bendiba.
Du coup, c'est essayer d'avoir une safe place pour tout le monde dans l'informatique, et que tout le monde ait sa place dans l'informatique. La seule chose dont on n'a pas parlé, si jamais on a des auditeurs ou auditrices qui ne sont pas encore dans le logiciel libre, n'hésitez pas à faire votre première contribution. Si vous êtes une femme, n'hésitez pas aussi à venir nous voir avec l'association Duchesse France si vous avez besoin d'être mentorée ou aidée pour votre première contribution. Et voilà, j'espère qu'on aura plus de femmes dans le logiciel libre.
Bah, nous l'espérons aussi. Alors, un nom a été souvent cité, notamment par Agnès et Isabelle Collet. Donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, donc mardi 14 juin 2022, nous recevrons Isabelle Collet, donc, qui est informaticienne, enseignante chercheuse à l'Université de Genève, spécialiste de cette question, et qui sera accompagnée de Stefano Zaccheroli, qui est professeur, excusez-moi, je cherche, à Télécom Paris, et qui vient récemment de publier une étude sur l'évolution de la diversité de genre dans le monde du logiciel libre, les fameux 10% dont on a parlé tout à l'heure, c'est dans l'étude de Stefano. Donc la semaine prochaine, on continuera à parler de ce sujet, donc avec Isabelle Collet et Stefano Zaccheroli. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir, et peut-être qu'on pourra poursuivre la conversation dans une émission prochaine. Je suis ravi que vous soyez là. Donc Zineb Bendiba, qui est donc ingénieur logiciel libre chez Red Hat, Agnès Crépet, qui est responsable de l'informatique et de la longévité logicielle chez Fairphone et qui est déjà intervenue dans l'émission, et Arnise Marteneau, qui est indépendante libriste et qui participe au projet SPIP et qui était aussi déjà intervenue dans l'émission pour parler de SPIP. Vous retrouverez toutes les informations sur le site libreavoue.org, et je vous souhaite à toutes de passer une belle fin de journée et à bientôt.
Merci,
au revoir.
Alors, exceptionnellement, on va pas faire de pause musicale.
Merci, salut.
Merci Touti. Exceptionnellement, on va pas faire de pause musicale, on va enchaîner directement par le sujet d'après. Alors, nous allons poursuivre directement par la chronique de Luc. La pituite de Luc est une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens et décuple le sex appeal. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Ce texte n'est absolument pas de moi, hein, parce que c'est la description choisie par Luc. Et le titre de la chronique du jour de Luc, c'est « Errare humanum est, perseverare diabolicum, l'erreur est humaine, persévérer dans son erreur est diabolique ». On l'écoute et on se retrouve dans 3 minutes 30.
Errare humanum est, perseverare diabolicum, comme disent les gens qui essaient de se convaincre qu'ils n'ont pas perdu leur temps à apprendre une langue morte. Ça se traduirait par « l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique ». Mais existe-t-il une antique maxime en latin, en grec ou en cobol qui parle de ceux qui constatent les erreurs ? Car constater ça chez les autres génère chez moi des sentiments pas toujours très nobles. Par contre, quand c'est moi qui me gourre, c'est parce que je suis sympathiquement distrait ou que c'était piégeux, forcément. Nous avons tous tendance à voir la paille dans l'œil de la poutre de l'hôpital, mais pas dans celle de la charité. Finalement, le diable habite peut-être celui qui constate l'erreur plutôt que celui qui la commet. Donc si on a l'ambition de devenir de meilleures personnes, il faut savoir dire à quelqu'un qu'il se fourvoie en se défaisant de ses mauvaises dispositions. Mais comment faire ? Récemment, j'ai échoué deux fois. La première fois dans mon RER quotidien où j'ai constaté qu'au premier jour de levée du masque obligatoire, des gens continuaient à le porter sous le nez. Avant, je pensais qu'ils étaient irresponsables et égoïstes, mais là, j'ai senti l'influence diabolique pointer son nez. Quelle meilleure explication qu'une rigoureuse stupidité à leur comportement insupportablement irrationnel. J'ai préféré garder le silence plutôt que de leur dire à quel point je les trouvais cons. La seconde fois ensuite, quand je suis descendu dans le hall d'accueil de mon boulot et que j'ai vu un mec assis sur un pouf. Il exhibait un magnifique plombier. J'avais envie de lui dire, pour son propre bien, qu'offrir son postérieur à la vue de ses pairs était une méthode de socialisation qui marche bien chez les babouins, mais beaucoup moins chez les costards-cravates. J'aurais pu lui sortir d'un air entendu un message codé du genre « le vent souffle dans la rue du quai », mais pas sûr qu'il aurait capté. Alors, encore une fois, j'ai renoncé, je l'ai laissé exhiber sa raie. En lisant la presse, je constate que le reste du monde ne fait pas nécessairement mieux que moi. Par exemple, certains se lancent dans des procès. C'est le cas d'Anticor qui s'attaque aux appels d'offres sur mesure pour Microsoft, ou de certains actionnaires d'Amazon qui font un procès à la boîte pour contester ses projets de reconnaissance faciale. Ok, un procès est dépassionné et objectivé par le cadre juridique, mais bon, il s'adresse généralement à quelqu'un qui ne fait pas d'erreur si on le considère dans son référentiel malfaisant. Ça reste très hostile pour faire admettre à quelqu'un qu'il se fourvoie, il risque de se braquer. L'inaction serait une autre façon de faire. Aux US, la remise en cause de l'avortement au niveau fédéral semble inéluctable. Mais des discussions portent sur l'autorisation à utiliser les données personnelles pour traquer les femmes qui organiseront leur avortement dans un état voisin. Maintenant que les choses tournent suffisamment mal, l'hostilité de la critique est globalement plus faible que l'hostilité de la situation. Puis ça permet de placer un petit « je te l'avais bien dit » mesquin, qui fait toujours plaisir, mais bon voilà, à quoi bon signaler une erreur si ce signalement est entendu trop tard. Mais c'est sur Mastodon que j'ai découvert l'exploitation la plus brillante et la plus pragmatique de ce principe. Une personne expliquait que quand elle posait une question sur un forum quelconque d'informatique, elle se reconnectait avec un alt pour répondre à quelque chose d'insupportablement faux à sa propre question. Excellente manœuvre qui motive des gens qui n'auraient pas bougé le petit doigt sur leur clavier autrement à se démener pour corriger cette personne qui a tort sur Internet. Mais au final, il n'y a pas de correction puisque l'erreur est volontaire. L'espoir vient peut-être du journaliste Stephen J. Vaughan Nichols qui explique dans une chronique que tous les leaders de l'open source ne sont pas des connards. Il précise même que ce sont des bisounours comparés à de nombreux leaders du propriétaire. Pour lui, parce qu'ils doivent composer avec des contributeurs plutôt que de se payer des développeurs ou des concurrents, ils ne peuvent pas être aussi détestables que leur homologue du privateur. Il affirme que les codes de conduite, malgré toutes les accusations d'être le cheval de Troie de Social Justice Warrior, ont des effets bénéfiques. Même Torvalds, réputé être le connard en chef de l'open source, s'est remis en cause. Je ne suis qu'à demi consolé à l'idée que les open sourcistes ne soient que moins pires que les autres, mais au moins voilà une petite lumière au bout du tunnel.
Nous venons d'écouter la chronique de Luc intitulée « Errare humanum est, perseverare diabolicum, l'erreur est humaine, persévérer dans son erreur est diabolique ». Et nous espérons évidemment retrouver Luc dans sa prochaine chronique en juin et puis à la rentrée pour la saison 6 de Libre à vous. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Vous écoutez notre émission Libre à vous, évidemment, parce que vous êtes à l'écoute actuellement. Peut-être d'autres émissions diffusées sur la radio Cause Commune. Vous voulez découvrir les visages derrière les micros, faire plus ample connaissance, échanger, découvrir le studio? Eh bien, venez participer à l'apéro Cause Commune qui aura lieu vendredi 10 juin 2022 à partir de 19h au studio de la radio au 22 rue Bernard Dimet, 75 018 Paris. L'apéro est ouvert à toute personne qui souhaite venir et la présence d'auditrices et d'auditeurs nous ferait chaud au cœur. Pour faciliter l'organisation de cet apéro, vous pouvez vous inscrire sur le bloc-notes qui est indiqué sur le site de la radio causecommune.fm. Tant qu'on est dans les aspects festifs, l'April fête ses 25 ans et nous organisons, proposons divers apéros, pique-nique, excusez-moi. Il y a eu déjà un pique-nique à Montpellier samedi 4 juin et il y aura un pique-nique à Saint-Denis samedi 11 juin midi, Saint-Denis dans le 93, un pique-nique à Beauvais le 2 juillet et il y en aura un à Marseille, alors je n'ai pas noté la date mais ça doit être le 19 juin. Bon, en tout cas, vous allez sur le site april.org où vous retrouverez toutes les informations pour participer à ces pique-niques qui sont ouverts évidemment à toute personne, que vous soyez membre de l'April ou pas, vous êtes les bienvenus. À Nantes, pendant cette fin de semaine, donc du 10 juin au 12 juin 2022, il y a la conférence State of the Map France. Donc des contributrices, contributeurs, utilisateurs, utilisatrices, représentants et représentants de collectivités et d'entreprises qui gravitent autour du web et de l'information géographique, mais aussi des personnes curieuses de découvrir cette carte libre du monde que représente OpenStreetMap, se retrouveront pour partager leur expérience, se tenir informés, se former, découvrir l'écosystème et les multiples applications existantes ou à imaginer autour d'OpenStreetMap. On a déjà parlé deux fois d'OpenStreetMap dans Libre à vous dans les émissions 29 et 37, donc vous retrouverez podcast et transcription sur libreavoue.org/29 et libreavoue.org/37. Ce week-end, les 12 juin, c'est le premier tour des élections législatives et nous proposons aux candidats et candidates de signer le pacte du logiciel libre pour montrer leur engagement envers les libertés informatiques. Vous retrouverez toutes les informations sur le site candidat.fr avec un S, candidat. Donc si vous voulez contacter des candidats et des candidates et leur proposer de signer le pacte du logiciel libre, n'hésitez pas. Je vous rappelle, c'est les 12 et 19 juin 2022. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Agnès Crépet, Zineb Bendiba, Anne-Lise Marteneau, Luc. L'émission a été mise en ondes par Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production, de la découpe des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin, Quentin Gibaud, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, que vous rencontrerez vendredi 10 juin si vous venez. Eh oui. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également à la radio Cause Commune la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 14 juin 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera de nouveau sur la diversité de genre dans le logiciel libre avec Isabelle Collet et Stefano Zacchiroli. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. N'oubliez pas, apéro Cause Commune, vendredi 10 juin à partir de 19h au 22 rue Bernard Dimet, Paris 18e. Cela nous ferait chaud au cœur réellement que vous participiez à cet apéro. Toutes les infos sur le site causecommune.fr. On se retrouve en direct mardi 14 juin à 15h30 ou en podcast, où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. À très vite dans vos oreilles et d'ici là, portez-vous bien.